Donc, si vous vous accrochez, mais là, c'est important quand même d'avoir les racines religieuses que vous pouvez retrouver dans toutes les églises, mais qui sont une des origines du mariage chrétien. Donc, les enfants de Noé se marient les uns avec les autres, jusqu'à ce que la loi de l'inceste soit établie aussi entre frères et sœurs et cousins, cousines. Actuellement, la loi de l'inceste s'est à nouveau élargie, puisque nous pouvons nous marier au-delà de frères et sœurs, hein, cousins germains, germaines. Hein. On est au minimum de la loi de l'inceste latérale. Hein. Je ne sais pas si vous en saviez par rapport au code civil français. Hein. On peut se marier. Certains, d'ailleurs, militent pour qu'on puisse marier entre frères et sœurs. Ce sont des dingos. Voilà. Mais sinon, donc, les peuples s'étendent. Et vous avez les descendants de Caïn, eux, par contre. Et donc, vous avez les descendants de Cam, Canaan, qui lui, justement, est censé avoir été un peu réprouvé par son père. Les descendants se déroulent, et puis, on est toujours entre près du Tigre et de l'Euphrate, hein, même si la tradition dit que l'arche s'arrête sur le mont Ararat, en Arménie. On est toujours dans ces régions-là, et ils vont, les hommes, donc les descendants de Kem, Sam et Japhet, vont construire une tour pour montrer leur puissance. Alors, les tours à l'époque, les architectes n'étaient pas si géniaux que ça, ils n'avaient pas encore accumulé leurs connaissances, donc la base était immense. Ensuite, on faisait une base plus petite, un petit, petit, vous voyez. C'était même le système pyramidal, on s'extasie sur l'Égypte, mais enfin c'est quand même très simple, hein. Enfin c'est le genre de choses qui va pas s'écrouler comme ça, puisque ça c'est pas droit, quoi. Enfin voilà. Le Taj Mahal c'est quand même un peu plus joli que les pyramides, hein, vous voyez. Et ce sont des architectes européens qui ont contribué au Taj Mahal. Et donc voilà que ils construisent cette tour et Dieu, dans la parole biblique, est assez impressionnante. Hein. Si ça continue comme ça, ils nous égaleront, et c'est au pluriel, mais c'est une manière de parler, hein, et descendons et confondons dans leur langage. Donc, tous ces ouvriers qui construisaient une immense tour, tout d'un coup, ne peuvent plus se comprendre. Et c'est assez impressionnant. La confusion Babel, Babylone, hein, la confusion. Et du coup, comme ils se parlent plus correctement, enfin, ils se séparent. Et donc, quelle est la langue d'Adam? Est-ce que c'est l'hébreu? Est-ce que, en tout cas, on comprend mieux, si vous voulez, des langues humaines aux racines très très différentes. Même si vous reconnaissez l'indo-européen, si vous reconnaissez l'hébreu, les langues sémitiques, il y a des langues quand même qui sont bien différentes. Et les peuples se dispersent. Alors, ce qui est très intéressant dans la Bible, c'est la description des peuples qui se dispersent. Qui vont au nord, au sud, tout ça. C'est très intéressant. Parce qu'on retrouve les peuples actuels. Donc, c'est quand même très bien vu. C'est au moins historique. Et vous avez un des patriarches, je crois que c'était avant le déluge. Il s'appelle Héber. Mais non, c'est après le déluge, Héber. Forcément. Quoique. J'ai un trou. Héber, ça a donné le peuple hébreu. Oui. C'est l'ancêtre. Son ancêtre, donc, normalement, c'est Sem. Les Sémites, Héber. Et puis, vous avez Abraham. Abraham est un Sémite. Par rapport aux enfants de Noé. Et vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas quand même un fondement dans ce déluge et dans l'histoire de Noé pour que ces termes de peuple aient été donnés aussi profondément. Mais bon. Alors lui, il est à Ur en Chaldée. Alors on dit qu'à l'époque, La religion adamique a été très abîmée, la religion du Dieu unique, la tradition adamique, au point ils en sont venus au sacrifice humain, à l'idolâtrie, aux bêtes, aux singes, aux crocodiles. L'Égypte, hein, ce sont une religion païenne assez impressionnante, et qui est inspirée par des démons, et qui font des apparitions en forme monstrueuse. Et Seth, en Babylonie, Baal, qui demande des bébés qu'on jette dans une fournaise sous forme de sa statue. Et actuellement, vous avez des adorateurs de Baal qui ont fait un film dans les années 20-30. Ils étaient tout contents de montrer ça. Vous aviez comment dire, le haut de la poitrine du dieu qui s'ouvre. Et les enfants qui sont jetés dedans et qui se referment. Et vous avez une reproduction de cette statue d'un film sur Baal qui a été mise par rapport aux religions carthaginoises dans le Colisée à Rome. Donc c'est l'État, hein, c'est pas l'Église qui s'occupe du Colisée, hein. Et donc ils sont tout contents de montrer. Ben, c'est comme si on montrait une chambre à gaz ou un four crématoire, enfin, c'est odieux. On va représenter un grand four crématoire avec des ossements qui dépassent. En tout cas, ils ont, de manière archéologique, n'est-ce pas, ils ont représenté cette statue de Baal monstrueuse au Colisée, là, il y a quelques mois, un an. Abraham, lui, est de la tradition adamique, il refuse les sacrifices humains. Mais il est au milieu de sacrifices humains, hein. La tradition orale dit qu'on a voulu le brûler, hein, et que Dieu l'a préservé. On l'a jeté dans un brasier. Dieu lui parle et lui dit: maintenant tu quittes ta famille, tu pars avec ta maisonnée et je t'indiquerai le pays où tu devras t'arrêter. Ta descendance seront comme les étoiles de la terre, de l'étoile du ciel et le sable de la mer. C'était un grand éleveur. Hein, il avait 300 bergers. Hein, donc c'est un beau clan chaldéen, sémite. Il s'en va avec tous ses troupeaux, ses bergers, sa femme, ses cousins. Voilà. Et donc ils arrivent finalement en Terre Sainte, où il achète un petit terrain. Où il sera. Ensuite, il a des problèmes avec Lot, c'est pas son frère, c'est son neveu, Lot, et qui a lui-même des troupeaux et des bergers. Les bergers d'Abraham et de Lot se disputent, et Lot va s'installer à Sodome et Gomorre. Et là, vous avez des rois qui attaquent. Les petites villes avaient des petits rois, hein. Donc quand on parle de rois à l'époque, c'est des royaumes qui font Orléans, Senlis, Troyes. Et donc ils attaquent Sodome et Gomorre, ils prennent Lot en otage, ils repartent. Abraham les poursuit avec ses bergers, qui ont des épées plutôt que des bâtons à ce moment-là. Il défait les rois du nord et il ramène son neveu, Lot, à Sodome et Gomorre. Donc tout va bien, sauf qu'à un moment, il reçoit la visite de trois hommes, mais qui sont des anges, et donc trois apparences humaines. Et donc Abraham est impressionné et dit: Mon Seigneur, alors qu'ils sont trois. Il leur donne à manger, ça fait l'icône de. Je sais plus comment ça s'appelle, ce moine qui a peint cette icône de la Trinité, ces trois anges qui visitent Abraham. Et ils disent: Les péchés de Sodome et Gomorre montent jusqu'au ciel, Dieu va punir. Alors Abraham dit: Mais s'il y a 50 justes dans ces villes, vous épargnerez ces villes. S'il y a 50 justes, on épargnera ces villes. Et s'il y a 30 justes, et un pantalon et un blouson, très bien. Et s'il y a 10 justes, on épargnera ces villes. Mais Abraham n'a pas parlementé jusqu'à moins de 10. Il faut savoir que les trois anges, deux des trois anges vont vers Lot, rentrent dans sa maison, et que ce soir-là, il y avait une orgie municipale. Et donc, ils arrivent et ils disent, oh, les deux étrangers qui viennent d'arriver, qui viennent un peu dans notre orgie. Et là, vous avez Lot qui dit, oh, ben, prenez plutôt ma fille, c'est plus naturel que des hommes. Parce qu'eux, ils faisaient la fête sur la place de la ville. Hein. C'était Sodome et Gomorre. C'était une débauche délirante. Comme les bacchanales plus tard à Rome, hein, ou dans les villes grecques. Un jour où ils faisaient de la débauche dans les rues et tout ça, en l'honneur de Bacchus, vous avez des Romains qui ont tué les gens. Ils sont des pères de famille fachos. Et qui ont, avec des glaives, sont arrivés dans les rues et ont transpercé les gars et les filles nues. Mais il faut s'imaginer donc ce qui pouvait arriver à l'époque. Et comment dire, c'était épouvantable. Et le lendemain, les anges prennent Lot et sa femme et sa maisonnée, ils partent. Il ne devait pas se retourner, la femme de Lot se retourne et elle voit les villes, les deux villes, foudroyées par des colonnes de feu, des éclairs et le tout transformé en sel, rasé et transformé en sel. Bouf! Et ça, c'est Sodome et Gomorrhe. Donc, Abraham, lui, reste dans son domaine. Dieu lui promet à nouveau d'être sauvé, surtout par la promesse adamique. Et la promesse adamique, c'était la descendance d'Ève écrasera la tête du serpent. Et donc Dieu dit à Abraham, c'est de ta descendance. Dans la descendance d'Ève, Noé, Sem, Hébert, Abraham. Et donc lui, il dit, mais j'ai 80 ans, c'est cuit. J'ai voulu avoir des enfants de ta première annonce. Du coup, je me suis fait polygame, j'ai pris une femme de second rang, Agar. Et elle a eu des enfants. Ismaël, l'aîné. Et Dieu lui dit, non. C'est de ta femme, sous-entendu première femme légitime. L'autre, tolérance de Dieu par rapport à la dureté des hommes. La polygamie, Jésus dit, c'est à cause de votre dureté de cœur que je vous ai permis d'avoir plusieurs femmes. Il n'en était pas comme ça dès le commencement. Sarah rit, la femme d'Abraham. Je vais avoir un enfant. À 85 ans, ou je ne sais plus comment, lui avait 85 et 80, et elle enfante un an plus tard, Isaac, rire, joie. Et au bout d'un certain temps, Sarah demande à Abraham de chasser Agar avec Ismaël. Et ils partent dans le désert, et ils manquent de mourir de soif, et Raphaël, l'archange Raphaël, sauve Agar et Ismaël. Et il dit à Agar, ton fils sera comme un âne sauvage dans le désert. Il mordra tout ce qu'il trouvera. Enfin, sous-entendu. C'est le peuple arabe. Et le peuple arabe sémite. Parce qu'il y a des Arabes qui descendent de Cam et de Canaan, qui sont les Philistins, qui occupent la bande de Gaza actuellement. Ça vous dit quelque chose? Ils sont en guerre depuis environ 3000 ans. Tout va bien. Les Cananéens et les Sémites ne s'entendent pas beaucoup. Et donc, ça fait 3000 ans qu'ils se font la guerre, c'est beaucoup. Et donc, même avant, pardon, 3200, 3200, 3400 ans, du temps de Samson aussi, ils faisaient la guerre. Et donc, vous avez Isaac, Ismaël, donc lui, c'est les Sémites du désert, qui seront pas de la femme légitime d'Abraham. Donc ils se détestent. Vous avez des hommes d'Arabie Saoudite qui sont sémites, qui sont de clans sémites, qui sont des cousins des juifs. Et qui. C'est entre l'amour et la haine hein, chez eux. Hein, voilà. Mais d'autres sont des Arabes cananéens, donc là, c'est des. Hein, là. Et tout date de cette époque-là, quand même. Hein. Ensuite, vous avez Isaac, Jacob, et Jacob, lui, va avoir 12 fils. 12 fils au moment de la famine. Ses fils ont, parmi ses fils, vous avez Joseph, qui est un saint, et qui a des visions. Et Dieu révèle qu'il va sauver son père et ses frères. Les 12 étoiles s'inclinent, les 11 étoiles s'inclinent devant son étoile, et la lune, Sarah, et le soleil, Abraham, s'inclinent devant l'étoile de Jacob. C'est un des songes de Joseph. Alors, les frères de Joseph veulent le tuer par jalousie. Et au lieu de le mettre, de l'égorger, on finit par le mettre dans une citerne au fond du désert, dans un trou. Et puis, en fait, ils ont des petits remords et ils le vendent à des marchands d'esclaves qui vont en Égypte. C'est sympa. Donc, il est parti. Et ils prennent la tunique de leur frère, ils tuent une bête, ils mettent du sang dessus, ils vont voir Jacob et dit, oh! Une bête a dû tuer ton fils. Voilà. Et en fait, lui, il devient esclave en Égypte. La femme du maître veut coucher avec lui, lui veut pas. Elle l'accuse de viol. Il est mis en prison. Et en prison, il interprète les songes de les chansons de celui qui sert le vin au pharaon et du boulanger du pharaon. Un meurt, l'autre survit. Il est libéré de prison et innocenté, c'est la femme qui l'avait calomnié, mais, enfin, innocenté, disons qu'il est libéré de prison parce que le pharaon a un songe. Il voit sept vaches maigres qui mangent sept vaches grasses. Il voit sept épis gras qui mangent sept épis desséchés. Il fait venir les sorciers égyptiens. Vous savez, Horus, Isis et compagnie, ils sont là, hein? Il dit, vous allez m'interpréter ce songe. Eh bien, bon, nous, pas savoir. En plus, ils mentent même pas, quoi. Ils sont empêchés même d'inventer quelque chose. Alors, quand Pharaon était sur le point de les faire tous égorger, comment dire, il y a celui qui lui sert le vin et qui lui dit, ben, il y a un juif, ben, il a un drôle de don pour interpréter les songes. Il devrait l'écouter. Il fait venir Joseph et Joseph lui dit, vous aurez 7 années abondantes et 7 années de famine. Il prend le sceau, son sceau royal, Pharaon, il met à la main de Joseph et lui dit, gouverne mon pays pendant 14 ans. Donc il va engranger les 7 années surabondantes. Et ils vont devenir la providence de toute la région, jusqu'en Palestine et en Jordanie et en Syrie, à cause de cette disette. Les frères de Joseph arrivent. Alors il y a toute une histoire. Il finit par dire, je suis votre frère que vous avez vendu. Alors là, ils disent, on est mort. Et il est le premier ministre du Pharaon. Ça va mal se passer pour nous. Et en fait, il veut voir Benjamin. Benjamin, c'est le 12e fils. C'est pour ça qu'on dit que Benjamin, c'est le dernier enfant. Et Jacob vient en Égypte. Jacob, lui, avait eu un songe, et un ange lui avait dit, renouvelez les promesses d'Abraham, et Jacob avait voulu la bénédiction de l'ange, et ils se sont battus avant qu'il lui donne, hein, et du coup, l'ange l'a appelé Israël, fort face à Dieu. Et donc, Jacob, Israël, meurt entouré de ses enfants et il dit à Judas, pas Judas Iscariote, celui qui a trahi le Christ, hein, Judas, qui a donné le terme de juif, donc en fait c'est un hébreu à l'époque, et dit, toi, quand le sceptre sortira de ta tribu, le désiré, celui qui doit venir, viendra. On est en 1400 ans avant Jésus-Christ, 1450 avant Jésus-Christ, 1500. Eh bien, donc, il s'installe en Égypte pendant 430 ans environ, 470 ans, Et là, ils sont en contact avec la sorcellerie égyptienne. À un moment donné, ils sont trop nombreux parce que les femmes juives ont une vingtaine d'enfants. Vous savez que la fécondité féminine sans mortalité infantile est redoutable. Vous avez une femme peut avoir une vingtaine d'enfants dans sa vie. Et donc, le peuple juif se multiplie de manière absolument incroyable et les Égyptiens commencent à s'inquiéter. Alors que c'est un peuple pacifique. Ils les réduisent en esclavage. Et ils décident de faire mourir tous les bébés, garçons. Donc à chaque fois qu'une mère, une femme juive, une femme hébreu enfante, on tue l'enfant. Alors elles se cachent, elles enfantent en secret, tout ça, mais il y a des milliers d'enfants qui sont tués. Et Israël, le peuple d'Israël, crie vers Dieu. Et il a entendu, le jour où vous avez un petit garçon, sa maman dit c'est pas possible, je peux pas le laisser mourir. Elle le met dans un petit panier d'osier, et comme elle connaissait la fille de Pharaon, elle pousse le petit panier là où la fille de Pharaon se prend son bain sur le bord du Nil. Donc le petit couffin arrive. Oh, c'est mignon, qu'est-ce que vous faites voir et tout ça. Oh, c'est quoi, c'est un petit bébé. Oh, c'est un hébreu. Il est circoncis. Et comme elle a une de ses servantes qui est juive, elle lui confie qu'il est confié à la mère de Moïse. Donc Moïse a été éduqué par sa mère et à la cour de Pharaon. Et là, Dieu, il est grand, il est adulte, et il voit un Hébreu et un Égyptien se battre. L'Égyptien le frappe, le frappe, le frappe. Il défend l'Hébreu et l'Égyptien meurt. Ensuite, il voit deux Hébreux se disputer quelques temps plus tard, et il dit, mais séparez-vous. Et là, un des Hébreux lui dit, tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Ça s'était su. Et du coup, il doit quitter la cour et il part dans le désert. Et dans le désert, alors qu'il s'occupe des moutons, lui qui était un prince du Pharaon, il voit un buisson brûlé, 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 sans se consumer. Il brûle, il brûle, il brûle, mais les branches tombent pas, quoi. Alors, il s'avance. Regarde ça, un feu dans le désert, comme il peut y en avoir. En Australie, c'est pas mal. Et donc, il arrive, et là, il y a une voix qui sort du buisson qui lui dit, ce lieu est saint, retire tes sandales. Il retire ses sandales, il lui dit, tu reviendras avec le peuple hébreu, ici même, pour adorer. Ah, Moïse, oui, et comment je vais leur expliquer qu'il faut qu'ils partent dans le désert et me suivent? Moi, je peux pas parler, je suis un pauvre homme. Eh ben, tu diras à Aaron de parler pour toi si tu ne sais pas comment t'exprimer devant le roi d'Égypte. Son frère Aaron. Il est de la tribu de Lévi, lui, hein, parce que les 12 tribus, Jacob, Israël, et les 12 fils. Moïse arrive auprès de Pharaon et dit, voilà, tu sais les 2 millions d'Hébreux qui travaillent pour toi, qui font les briques et tout. On doit aller dans le désert pour adorer. On va partir. Ah oui? Et moi, je m'appelle Alfred Pharaon, alors. Donc, non. Et vous avez les 10 plaies d'Égypte. Les criquets, les mouches, la grêle, les ténèbres, l'eau changée en sang, les sauterelles. Ils n'en peuvent plus. L'avant-dernière, c'est les ténèbres. Hein. Pendant 3 jours, ils ne voyaient plus rien. Et là, vous avez les sorciers égyptiens qui transforment qui demandent l'illusion aux démons que leurs bâtons deviennent des serpents. Le bâton de Moïse devient un serpent et avale les serpents des sorciers égyptiens. C'est du surnaturel, mais vous allez voir. Il dit, bon, si tu ne fais, laisses pas cette nuit, tu vas voir la gloire du Seigneur. Ah ben on verra bien si vous voulez voir la gloire du Seigneur. Et là, vous avez l'ange exterminateur qui passe dans toutes les maisons. Si les Hébreux avaient égorgé un petit agneau d'un an mâle et qu'ils avaient mis le sang sur les portes, l'ange exterminateur passe. S'il n'y a pas ce sang de l'agneau, Pascal, Il tue les premiers-nés mâles, des hommes et des bêtes. Et là, au bout de quelques heures, les familles hurlent, les bébés meurent, les aînés meurent, les bêtes meurent, et on va voir Pharaon, qui a perdu lui-même son fils aîné, il est foudrage, et il dit « Partez, partez !» Et là, les Hébreux demandent à leurs voisins de l'or, et partent, avec leurs bêtes, avec leurs chariots, et tout ça. Et là, alors qu'ils sont arrivés dans le désert, près de la mer, du bras de mer, vous avez une colonne qui arrive, une colonne de nuages, une tornade. La nuit, une tornade de feu, et le jour, une tornade de nuages. Et il les conduit pendant 3 mois. Mais les Égyptiens sont foudrages, ils envoient une armée derrière. Et arrivés au bras de mer, l'eau s'écarte et le peuple traverse à pied sec. Vous voyez, vous avez des charismatiques qui chantent et qui disent « C'est merveilleux, Dieu a fait passer son peuple à travers la mer Rouge. » Et là, vous avez un scientifique qui arrive qui dit « Mais c'était la mer des joncs, il y avait 50 cm d'eau, vous dites n'importe quoi. » Le lendemain, il passe et il dit « Seigneur, tu as fait des merveilles, tu as fait des merveilles. » Tu as noyé l'armée de Pharaon dans 50 cm d'eau. C'est-à-dire que l'armée de Pharaon était derrière le peuple hébreu. Le peuple hébreu passe le bras de mer avec la mer qui part sur les côtés, le sol qui est desséché par le vent, et vous avez l'armée de Pharaon qui arrive derrière. Et quand le peuple est passé, l'armée de Pharaon s'engouffre avec l'eau de part et d'autre, et l'eau les recouvre. Alors, ce miracle qui a marqué profondément l'histoire juive, si vous voulez, si vous dites que c'est faux, eh ben ne dites pas ça aux rabbins qui sont dans le quartier. Pour les chrétiens, c'est vrai. Et surtout à cause d'un signe tout particulier. À cause de l'agneau pascal. Parce que, pour terminer, dans 3 minutes, enfin dans 5 minutes, je suis passé trop vite sur Abraham. Car Abraham, alors que son fils Isaac avait 12-14 ans, Dieu lui dit, le fils de la promesse, rends-le-moi. Sacrifie-le. Et ce sont les païens qui font des sacrifices humains en l'honneur des divinités et des puissances. Alors il prend du bois, il prend un couteau, il demande à son fils de porter le bois et ils partent vers le mont Sion. Ça vous dit quelque chose des sionistes ? Non. À Jérusalem. À Salem à l'époque. Il va sur la petite montagne. Il y a un rocher. Actuellement, il y a la mosquée du Dôme au-dessus du rocher, si ça vous dit quelque chose, sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Et là, l'enfant lui dit, mais où est le mouton? Où est le... Dieu y pourvoira. Ils arrivent en haut, ils disposent le bois, et là, il dit à son fils, monte sur le bois. Et là, le fils est un peu penaud, n'est-ce pas? Mais saint Paul nous dira que Abraham croyait profondément en la résurrection, et pensait que son fils lui serait redonné. Mais c'est la crainte de Dieu. Fondamentale crainte de Dieu, maître de la vie et de la mort. Donc il va faire ce sacrifice humain, la mort dans l'âme, et au moment où il abaisse le couteau, Dieu le retient, un ange le retient, et il sacrifie un bélier. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait que dans la vraie religion d'amour, il y a un sacrifice humain? Comment ça se fait que dans la religion d'amour, on prend un petit mouton tout blanc, tout mignon, d'un an, et qu'on lui coupe la gorge pour mettre du sang sur les linteaux de porte. Lors du passage de la terre d'Égypte, de l'esclavage et de la sorcellerie, vers la terre sainte. Et les juifs doivent tous les ans sacrifier, mais ils ne peuvent plus parce qu'il n'y a plus le temple de Jérusalem. Parce que quand Moïse va arriver en terre sainte, enfin lui s'arrête devant, Le Jourdain s'ouvre de manière aussi miraculeuse que la mer Rouge. Josué emmène le peuple. Et là, il garde un coffre en bois avec Harrison Ford et... comment dire, comment il s'appelle, Indiana Jones. Eh bien, ce coffre en bois, il est recouvert d'or. Et à l'intérieur, vous avez les 10 commandements. Quand Moïse, sur le mont Sinaï, où il avait vu le buisson ardent, a reçu les 10 commandements, le rappel de la loi morale. Tu adoreras Dieu, tu respecteras son nom, tu sanctifieras le jour du Seigneur, tu prieras en société, en famille, en société. Tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras pas l'innocent, tu ne feras pas d'impureté, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu n'auras de relations et de désirs que dans le mariage, et tu ne jalouseras pas le bien de ton prochain. Eh bien, ce grand rappel des 10 commandements, il est dans l'Arche d'Alliance. Et au début de l'Exode, ils n'ont pas voulu rentrer en Terre Sainte à cause des armées cananéennes et des Philistins et de la bande de Gaza. Et du coup, Dieu les a fait tourner 40 ans dans le désert. Ils ont un pot de la gelée miraculeuse qui apparaissait tous les matins alors qu'ils se déplaçaient dans le désert. Ils récoltaient cette gelée, ils la mangeaient et ils ne mouraient pas. Et ça les a nourris pendant 40 ans. La manne du désert. À un moment donné, ils ont demandé de la viande, donc Dieu leur a donné de la viande pendant un mois, mais uniquement de la viande pendant un mois. À la fin, ils n'en pouvaient plus. Tandis que la manne, c'est une nourriture qui... énergétique, je ne sais pas, enfin c'était... Il y a un pot de manne dans l'Arche d'Alliance. Il y a le bâton d'Aaron aussi. Quand les tribus d'Israël ont voulu avoir le même pouvoir que les prêtres, Moïse et Aaron devant l'Arche d'Alliance, et la tribu de Lévi, Aaron qui avait fait le veau d'or pour calmer le peuple pendant que Moïse était en haut du mont Sinaï pendant 40 jours, avec le feu, son bâton avait fleuri. Donc vous avez le bâton d'Aaron, la manne et les 10 commandements qui sont dans le coffre de l'Arche d'Alliance. Vous avez deux séraphins ou deux chérubins qui sont représentés en or, enfin bois doré. Et cette arche, elle traverse le Jourdain et elle va être là. Et ils vont pouvoir offrir devant l'arche tous les ans le sacrifice du passage de la Pâque, de la mer Rouge, du pays d'Égypte à la Terre Sainte. Avec le petit agneau d'un an, tout blanc, qu'ils vont sacrifier tous les ans, une fois par an, et uniquement devant l'Arche d'Alliance. Donc les Juifs qui étaient répartis sur toute la Terre Sainte, s'ils ne pouvaient pas venir à Jérusalem, devant l'Arche d'Alliance, ils ne pouvaient pas faire la Pâque. Ils priaient dans la synagogue, mais ils ne pouvaient pas offrir d'animaux. On offrait d'animaux que devant l'Arche d'Alliance, et que au Temple de Jérusalem, qui sera construit 200 ans plus tard par Salomon son fils. Voilà l'histoire sainte. Et cette histoire sainte, elle se clôture pour aujourd'hui sur une promesse constante: viendra un sauveur. Et Moïse le dit, et David le dit. Il compose des prières, des poèmes chantés, des psaumes. Viendra un sauveur. Viendra un sauveur. À un moment donné, vous avez un prophète qui dit: il naîtra à Bethléem. Jacob Israël avait dit à son fils Judas qu'il naîtrait de sa famille, celui qui doit venir, le désiré des nations, le sauveur. Et comment il va se sauver? Qui est-il? Isaïe dit qu'il sera souffrant. Jérémie aussi le dit. Ézéchiel le voit glorieux. C'est un homme. Mais Ézéchiel le voit dans la gloire divine, dans la lumière divine. C'est curieux. Et ce peuple a attendu. Et encore maintenant, 16h59, vous demandez aux Juifs Est-ce que vous attendez le Messia? Nous attendons le Messia. Et depuis que nous sommes en Israël, depuis 1948, il va bientôt venir. Alors, les chrétiens leur disent, il est déjà venu. Et celui qui se présentera comme votre Messie et qui fera reconstruire le temple de Jérusalem sur l'esplanade des mosquées en détruisant la mosquée du Dôme et en déclenchant la Troisième Guerre mondiale jusqu'à la Malaisie, parce que tous les musulmans du monde entier vont... On détruit la mosquée qui a été construite sur là où Mahomet est arrivé de la Mecque ou de Médine pour poser le pied et repartir vers le ciel en visitant les prophètes. Eh bien, ça va mal se passer. Et pourtant, les Juifs, comme dit Jésus, vous me reconnaîtrez comme Messie. Vous me reverrez quand vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et saint Paul le dit aussi, quand les Juifs reconnaîtront Jésus comme leur Messie, il y aura une immense grâce pour le monde entier. Parce que les gens se diront « Comment ce vieux peuple a reconnu comme ça le Messie ?» Et donc, jeudi prochain, ceux qui sont absents en podcast, c'est Jésus. Mais attendez, pourquoi je vous ai fait tout ça aujourd'hui? Vous allez vous marier normalement au nom de Jésus. Et si vous ne savez pas d'où il vient, il vous manque quand même quelque chose. Si je vous avais simplement fait une préparation de mariage, je vous dis Jésus, c'est Gandhi de l'époque. Un type super gentil qui a fait de mal à personne. Vous voyez, c'est suffisant. Vous allez vous marier au nom de Mandela? Non. Vous allez vous marier au nom d'un défenseur des droits de l'homme? Non plus. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Et il y a toute une histoire avant lui. Une histoire très dure. Vous voyez, si vous lisez la Bible ligne par ligne, vous arrivez au bout d'une heure, c'est fini. C'est un pavé comme ça. Et il y a des guerres, il y a des péchés, il y a des violences inouïes dans la Bible. Mais très crues et très directes. Et qui vous disent toute la vie humaine. Et qui vous disent justement qu'on ne vient pas de nulle part et que les peuples ne viennent pas de nulle part. Et c'est la raison pour laquelle, quand Jésus a dit « Maintenant, vous allez parler de moi dans le monde entier », il était absolument improbable qu'une secte juive, il y a 2000 ans, puisse conquérir 2 milliards de personnes. Actuellement, sur 6-7 sont chrétiennes. Catholiques, orthodoxes, si vous voulez, protestants, anglicans. C'est quand même étonnant que se soient accomplies les prophéties, que de ce petit homme Abraham, sa religion a été diffusée dans le monde entier. Alors vous allez me dire, oh, ben c'est un processus collectif, tout le monde s'est monté le bourrichon, et puis voilà. Il y a eu suffisamment de miracles et suffisamment de grâces pour que cela soit vrai. Et je vous parlerai donc la prochaine fois de Jésus, et surtout, voyez-vous, de ce fait même que la Vierge Marie, la mère de Jésus, a depuis quelques siècles, depuis surtout une centaine d'années, la mission d'apparaître aux hommes pour les avertir qu'il faut qu'ils se convertissent et que cette histoire sainte et que cette foi chrétienne n'est pas anodine en 2020. Et que vraiment, il faut bien réfléchir sur le fait que nous sommes responsables de nos actes, de notre mariage, de notre amour, de nos pardons, de nos fautes et de nos regrets, et de nos joies et de nos victoires, parce que Dieu nous demandera de rendre compte du vrai et du faux, du bien et du mal. Et c'est l'origine même de la religion. Mais la religion s'est épanouie quand Dieu s'est révélé. La révélation, c'est retirer un voile. C'est-à-dire, ne soyez pas de religion inca. Ne soyez pas de religion hindoue. Ne soyez pas de religion bouddhiste. Parce que ce sont des impasses qui peuvent être relativement spirituelles quand vous êtes dans cette culture depuis des siècles. Mais voyez-vous, si vous êtes intouchable, non. Et surtout, dans le bouddhisme, si vous n'êtes pas de tel ou tel pays, thaïlandais ou tibétain, tout ça, vous avez, si vous voulez, on vous demande surtout de ne pas être. On vous demande de ne pas être attaché à votre famille. On ne vous dit que vous allez rentrer dans le nirvana, dans la vie soufflée. Et pour être ensuite dans le grand tout. On est tous. Voilà, ce ver de terre est peut-être votre grand-mère. Son âme est peut-être passée dans ce vivant-là, et puis passera dans un autre vivant. Mais où est la vie humaine à ce moment-là? Où est notre amour? Où sont nos prénoms? Où sont nos parents? Eh bien, le christianisme donne un sens très profond à cette vie humaine, puisque il va même être victorieux véritablement du mystère du péché, de l'assassinat, de la crucifixion et de la mort, avec un innocent, un agneau de Dieu, qui va nous pardonner, et le pardon c'est essentiel dans la vie humaine, et qui nous promet que la vie après la mort dont nous avons l'intuition, depuis qu'on enterre nos morts avec des pots de confiture à côté, eh bien, sera véritable. Et que ce n'est pas en vain que certains ont des apparitions. Ou, mais ça c'est plus délicat avec le spiritisme, les expériences de mort imminente où des personnes ont rencontré des gens qui étaient morts, les ont vus, avec des récits impressionnants. Parce que quand c'est de l'imagination ou de l'illusion, les gens continuent à avoir ce tempérament d'illusion. Ceux qui ont eu une véritable expérience de mort imminente et qui ont vu des personnes, des âmes, hein, alors que leur âme était sortie de leur corps, sont des personnes tout à fait normales et équilibrées après ces expériences. C'est ce que les psychiatres et les psychologues constatent. Ils sont étonnamment équilibrés. En fait, ils sont pas dingues. Parce qu'ils disent, mais je l'ai vécu, quoi, je sais pas comment vous le dire. Et vous avez par exemple un homme qui s'est converti, qui était un tenancier débauché. Il a eu deux expériences de mort imminente. À deux reprises, le Christ lui a demandé de se convertir. Et à la deuxième, il s'est converti. Et là, actuellement, il témoigne, je peux vous assurer que lui, la vie après la mort, il croit dur comme fer. Et vous avez, pour terminer vraiment, vous avez une femme comme ça qui a eu une expérience de mort imminente absolument incroyable, parce qu'elle a fait l'objet d'une opération très délicate où on l'a vidée de son sang au maximum pour pouvoir opérer le cerveau et un anévrisme. Et elle a tout entendu et tout vu dans la salle d'opération. Vous avez les chirurgiens qui disent, c'est strictement impossible, son corps était à 15 degrés. Elle n'avait pratiquement plus de sang dans le cerveau, c'est absolument impossible qu'elle ait entendu ou vu quoi que ce soit. Ouais. Alors, comme il y a beaucoup d'escroqueries dans l'exposition des morts, des expériences de mort imminente ou dans les miracles, eh bien, vous avez une autorité qui s'appelle l'Église catholique qui essaye de vous dire ce qui est vrai, ce qui est faux, dans ce qui est surnaturel et miraculeux. Et bonne chance, parce que dans les prochaines années, il risque d'y avoir des choses surnaturelles. Vous verrez bien. En tout cas, pour vous, ce qui est essentiel,